Débat du jour.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous. Nous poursuivons notre journée thématique liée au groupe Boko Haram sur RFI à l'occasion du sommet régional sur la sécurité qui aura lieu demain à Abuja, la capitale nigériane. Dans le débat du jour, on va se pencher précisément sur la réponse à adopter face au groupe djihadiste. Depuis plusieurs semaines, l'armée nigériane, appuyée par les 8500 soldats de la force régionale, intensifie son offensive terrestre dans le sud de l'état de Borno, au Nigeria. Mais est-ce que le tout sécuritaire est la solution? Car en face, la stratégie de Boko Haram se révèle être extrêmement évolutive. C'est notre débat ce soir. Et nos deux interlocuteurs, tout d'abord à nos côtés en studio, Jean-Christophe Servant, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef au magazine Géo et collaborateur du Monde Diplomatique. Notre second invité en ligne depuis Yaoundé, la capitale camerounaise, Raoul Soumo, consultant défense et spécialiste de Boko Haram, chercheur au Centre d'études stratégiques et des innovations de Yaoundé. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation de RFI. D'abord, pour bien comprendre la situation, où en est la lutte contre Boko Haram aujourd'hui? Alors, il y a le président nigérian, Muhammadu Buhari, qui affirme que le pays a, je cite, « techniquement gagné la guerre contre Boko Haram, qui ne contrôle plus aucune partie du territoire ». Fin de citation. Jean-Christophe Servant, c'est effectivement le cas?
En ce qui concerne le Nigeria, oui, effectivement, il y a eu de nettes avancées, puisque les grands pôles où était présent Boko Haram, une grosse partie de la forêt de Zambeza, les villages qui tenaient en particulier dans l'état de Borno ont été repris par les forces armées nigérianes. Après, bien sûr, cette étape de contre-offensive régionale aujourd'hui qui implique plusieurs nations autour du Nigeria,
Tchad,
le Niger,
Cameroun.
Le Tchad et le Cameroun va durer bien sûr plusieurs années avant que la paix ne revienne dans cette région-là.
Donc ça veut dire que le tout sécuritaire qui régit actuellement cette offensive fonctionne?
Le tout sécuritaire, ça dépend ce qu'on entend par sécuritaire, puisque si c'est un tout sécuritaire où l'état de droit n'est pas respecté, on a pu le voir en début de semaine avec à nouveau cette enquête d'Amnesty International sur les enfants qui sont morts en détention à Maïdougouri dans des baraquements extrêmement célèbres pour les tortures, les exécutions extrajudiciaires qui sont menées, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'ordre du sécuritaire.
Raoul Soumo, justement, vous qui êtes à Yaoundé, quel écho vous pouvez donner à ce rapport effectivement d'Amnesty International qui évoque de graves violations commises par l'armée camerounaise dans leur réponse aux atrocités de Boko Haram?
Je voudrais déjà relativiser ce que mon copanéliste vient de dire. Parce que contrairement, la réalité du terrain montre que si l'armée nigériane a effectivement occupé des grandes localités, Boko Haram s'est réfugié au niveau des périphéries, des zones rurales. Et c'est la raison pour laquelle la secte islamiste est capable aujourd'hui de planifier et de conduire des opérations en territoire camerounais.
Donc le recul de Boko Haram n'est pas si évident?
Ah non, il n'est pas si évident du tout. Nous sommes dans une situation où l'armée nigériane, les deux armées d'ailleurs, qui ont fait le choix tactique du contrôle de zone, contrôlent les grandes localités et abandonnent littéralement les zones rurales à la secte islamiste. Bon, contrairement à une certaine opinion qui pense que la secte n'a plus que des moyens résiduels, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en plein dans une sorte de repli stratégique. La preuve, c'est que cette nuit encore, Boko Haram a lancé une offensive d'envergure contre les positions de l'armée camerounaise dans la zone du lac Tchad, notamment la localité de Souarem. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, le tout sécuritaire, parce que moi, j'entends par tout sécuritaire la réponse essentiellement militaire à l'opposé de l'autre réponse qui consiste à ce que les anglo-saxons appellent « order operation, order than war », c'est-à-dire les autres opérations dites civilo-militaires qui consistent à s'attaquer aux racines du mal. Donc je pense que pour le moment, le tout sécuritaire devrait s'imposer et de ce point de vue, il est important que les différents États coalisés contre Boko Haram ne baissent pas la garde. Maintenant, pour revenir à votre question...
Attendez, on va faire réagir Jean-Christophe Servant à ce que vous venez de dire, c'est intéressant. Bien. Effectivement, notamment le déplacement des forces de Boko Haram, Jean-Christophe Servant, est-ce que c'est pas révélateur finalement d'une stratégie qui était extrêmement évolutive de la part du groupe djihadiste?
Il s'avère effectivement que depuis les offensives qui ont été menées depuis 2013 par l'armée nigériane et ensuite auxquelles se sont rajoutées évidemment les offensives menées par les BIRs camerounais, les forces armées nigérianes. Évidemment, Boko Haram est rentré dans une nouvelle stratégie. En fait, ce sont différentes cellules. Il ne faut jamais oublier que Boko Haram, même si effectivement il y a une sorte d'organisation au sommet une choura avec différentes katibas. Boko Haram, comme on l'a pu le constater effectivement depuis 2 ans, est rentré plutôt dans une politique d'attentat suicide, extrêmement violent, extrêmement impactant. Il ne faut jamais oublier d'abord, et je tenais à saluer effectivement toutes les populations et à dire tout mon réconfort à toutes les populations qui vivent effectivement dans les différentes régions qui sont aujourd'hui impactées par cette sale guerre, qui ressemble beaucoup à celle menée par la LRA en Ouganda durant les années 90. Aujourd'hui, plus que jamais, Boko Haram est rentré dans une politique effectivement d'attentats suicides, souvent menée d'ailleurs par des jeunes gens, des jeunes filles beaucoup et beaucoup de femmes instrumentalisées qui explosent n'importe où et surtout sur les marchés, et que on est dans un conflit complètement asymétrique, si on peut utiliser cette expression très utilisée par les polémologues, etc., qui rend, comme vous avez raison Raoul, qui rend effectivement ce conflit de plus en plus complexe, de plus en plus difficile, où il y a de plus en plus d'interprétations avec la population, et qui, justement, mène de plus en plus les forces armées de la région à mener des opérations sans doute complètement aveugles et sans considération aucune sur les populations.
Et est-ce que parce que le conflit, justement, est multiple, parce qu'il y a au sein de Boko Haram cette autonomie des groupes qui se revendiquent de la secte islamiste, eh bien, est-ce qu'effectivement, pour ces raisons-là, la lutte contre Boko Haram doit, elle aussi, évoluer? Et si oui, de quelle manière?
Oui, je pense, moi... Vous, Raoul, vous voyez effectivement surtout cet aspect purement sécuritaire. Moi, je pense que l'aspect civil dont vous parliez, évidemment, me paraît très, très important au jour d'aujourd'hui. On le sait très, très bien qu'il y a une grande crise agricole aujourd'hui qui se passe, et sans doute aussi dans le nord-ouest du Cameroun, que je ne connais pas, contrairement au nord-est du Nigeria, et qu'aujourd'hui, en fait, ce sont des dizaines de milliers d'agriculteurs qui ont été obligés de fuir, en fait, leur région, sans parler des réfugiés, évidemment, sans parler de la jeunesse qui a été obligée de se tirer, etc. Et ce qui fait qu'on est aujourd'hui confronté à une crise alimentaire qui risque d'ailleurs de durer en fait déjà toute l'année jusqu'à septembre, etc. Les récoltes n'ont pas été faites, etc. Et que cet aspect aussi effectivement développement, cet aspect civil évidemment, en particulier lié à la question alimentaire, me paraît très très important, d'autant plus en ce qui concerne le Nigeria, dans un pays où on a vu une forte inflation des prix déjà des denrées alimentaires et qui est aujourd'hui confronté à une crise économique assez sérieuse.
Raoul Soumo, la question économique fait partie de la lutte contre le Boko Haram?
Absolument, absolument. Il s'agit de s'attaquer aux racines du mal, parce que Boko Haram est le résultat d'une conjonction de facteurs dont la succession dans la longue durée a conduit à l'insécurité actuelle. Mais je voudrais qu'on s'accorde sur une chose. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que la situation, c'est-à-dire un ensemble de mesures qui devraient être prises par les États sur le plan socio-économique s'impose. Mais pour que la reconstruction ait lieu, il faudrait garantir un minimum de sécurité. Visiblement, ce n'est pas le cas aujourd'hui, malgré les victoires des différentes armées accompagnant cela par les éléments civils. La zone n'est pas encore en sécurité. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les travaux de construction, par exemple, de l'axe principal qui relie le sud du Cameroun au Tchad et une partie du Nigeria, cet axe n'est toujours pas sécurisé.
Mais est-ce qu'il est possible de renforcer aujourd'hui encore la sécurité et en même temps de diversifier la solution pour lutter contre Boko Haram? Est-ce que les deux aspects sont possibles? Est-ce qu'on peut les mener de front?
Bien sûr. Il faut déjà intégrer le volet reconstruction dans les opérations militaires. Il faut déjà penser à cette perspective-là. Je crois que la réponse militaire était une solution. Souvenez-vous, au moment où du sommet de Paris, au moment où, par exemple, le Cameroun et le Niger déclarent officiellement la guerre à Boko Haram, la secte terroriste est dans une phase de territorialisation. La secte a à ce moment-là occupé de nombreux territoires, de nombreuses localités au Nigeria, et lance justement le même processus au Cameroun. Donc il était urgent d'impliquer très rapidement les forces de sécurité pour stopper au moins les velléités expansionnistes de Boko Haram.
C'est possible financièrement?
Je crois que ce travail est en train d'être mené à son terme.
C'est possible financièrement? Parce que la lutte contre Boko Haram coûte cher, 1 à 2% du PIB au Cameroun.
Vous faites bien de le relever, la guerre coûte extrêmement cher. Et il est important que non seulement les États mettent ensemble les moyens, mais également les principaux bailleurs de fonds. Parce que voyez-vous, l'enjeu n'est pas uniquement Boko Haram. Nous avons une situation où le Nigeria, la plus grande nation noire au monde, est en passe de devenir en 2030 un État majoritairement musulman. Aujourd'hui, il est important que l'Occident, que l'Afrique apporte une solution, apporte un appoint au Cameroun, au Nigeria, au Niger et au Tchad, pour que justement cette réponse globale permette d'anticiper un peu sur la situation. Personne n'a intérêt à ce que demain, dans 10-20 ans, que le Nigeria devienne un État islamiste, ce qui est fort probable dès 2030 avec l'évolution de la démographie. Donc je pense qu'il est important que les différents acteurs comprennent les enjeux réels, comprennent que ce n'est pas un problème qui concerne uniquement le Nigeria, le Niger et le Tchad, et que tout le monde s'implique. Il y va un peu de la survie, de la civilisation. Moi, je mets civilisation entre guillemets parce que, évidemment, c'est des concepts qui prêtent à confusion. Je pense qu'il est important que les uns et les autres s'investissent, comprennent qu'au-delà du Cameroun, il faut une réponse globale, aménage global, réponse globale, comme l'a dit un homme d'État contemporain.
Oui, finalement, c'est un appel à la communauté internationale, presque, que fait Raoul Soumo, Jean-Christophe Servan, pour à la fois donc renforcer la sécurité et préparer la reconstruction.
La question, c'est que les moyens, effectivement, comme Raoul le dit, les moyens manquent énormément. Et à nouveau, en ce qui concerne la question alimentaire, la question des réfugiés, en fait, les organisations internationales pleurent, n'en ont pas reçu par rapport, effectivement, à ce qui est estimé, par rapport à ce qu'elles avaient calculé en ce qui concerne l'aide entre le 1,5 million de déplacés de l'intérieur Nigeria, les 100 000 qu'il peut y avoir du côté du Cameroun, les 80 000 et les 100 000 qu'il y a du côté du Niger. En fait, il n'y a pas d'argent. Cet argent, effectivement, se tourne aujourd'hui vers le militaire. Et on sait très bien qu'en ce qui concerne l'expérience du Nigeria, on a vu quand durant la précédente gouvernance, celle de Goodluck Jonathan, il y a une grosse affaire dont vous avez parlé sur RFI, etc.
Corruption.
Il y a plus de 15 milliards de dollars, effectivement, qui lui étaient attribués, effectivement, à l'appareil militaire nigérian qui a été détourné par certains conseillers de la sécurité et certains hommes forts de l'armée, ce qui a amené, évidemment, de nombreuses émeutes, effectivement, de sous-officiers et d'officiers. Maintenant, on aimerait bien, effectivement, si cet argent est directement, effectivement, versé au profit de la force panafricaine, que cet argent, effectivement, aille réellement au bénéfice, évidemment, des soldats, et on les salue aussi, qui sont sur le terrain. Mais je vous dis, pour l'heure, effectivement, la question est aussi d'ordre humanitaire. Il y a une crise, en fait, en particulier, effectivement, dans le nord-est du Nigeria, de l'autre côté de la frontière dans votre pays, Raoul, et que le sécuritaire, comme vous le savez, est souvent utilisé et souvent instrumentalisé, parce que n'oublions jamais, effectivement, que la situation, elle est devenue régionale, et s'est aggravée, effectivement, dans votre pays, Raoul, mais aussi sur, de l'autre côté de la frontière nigériane et au Tchad, avec l'internationalisation de la réponse militaire en 2013. Auparavant, Boko Haram utilisait en fait comme base arrière de l'autre côté des Momandara ou de l'autre côté du Tchad, et tout le monde le savait qu'il y avait de nombreux effectivement représentants de Boko Haram qui avaient fait des investissements d'ailleurs à Zender, au Tchad, au Niger, etc., qui étaient là, qui vivaient un petit peu comme des poissons dans l'eau au milieu de la population nigériane et camerounaise, et que l'internationalisation de la réponse militaire a amené aujourd'hui à cette politique terrible, évidemment, de terre brûlée menée par Boko Haram et d'opérations suicides aujourd'hui qui ont impacté toute la région et la population évidemment des villes de la région, des petites villes de la région.
Raoul Soumo, la corruption entrave-t-elle la réponse à donner à la lutte contre Boko Haram?
Peut-être pas, j'ai pas des éléments qui, hormis l'exemple nigérien où effectivement la corruption au niveau du haut commandement de l'armée a plombé en un temps la lutte, la réponse, je crois qu'aujourd'hui la mayonnaise a pris et le nouveau président nigérien a réglé 2-3 préalables. Bien entendu, même du côté camerounais, il y a eu 2-3 allégations allant dans le même sens. Mais visiblement, toutes les forces ont été mobilisées pour faire face à la menace. Je crois également que même les contingences historiques qui ont plombé un temps les relations, c'est-à-dire la mutualisation des efforts, ont été levées. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde semble regarder dans la même direction. Mais ce qui me semble important en ce jour, c'est-à-dire 2 ans pratiquement après le sommet de Paris qui a conduit à la déclaration des guerres, il me semble important d'évaluer les chemins parcourus, de corriger ce qui mérite de l'être et surtout de prendre de nouvelles résolutions. De ce point de vue, je pense que la réponse de la communauté internationale jusqu'ici n'a pas été efficiente. J'ai eu l'impression, après mes multiples défenses sur le terrain, qu'au-delà du relatif folklore, au-delà de quelques pays, notamment la France et les États-Unis, qui ont assumé justement leur puissance, les autres États occidentaux rechignent un peu à le faire, craignant un peu le revers de la médaille, parce que généralement, lorsque vous engagez dans des initiatives pareilles, il y a de fortes chances que tu viennes sur vos territoires des attentats.
On a entendu votre... On a entendu votre appel à la communauté internationale, mais moi, je voudrais vous poser la question, finalement, est-ce que la lutte contre Boko Haram, elle ne commence pas déjà dans la région? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord sensibiliser les populations? On sait que le groupe a patte en agitant des gains supérieurs à ce que pourrait toucher l'employé nigérian lambda, et notamment les petits commerçants. Le porte-parole de l'armée nigériane a mis en garde contre tous ceux qui accepteraient l'argent de Boko Haram. Ce n'est pas d'abord une priorité, selon vous?
C'est une priorité, c'est une priorité. J'ai dit en début de propos que la zone demeurait propice à l'entrepreneuriat du crime organisé. On ne peut pas exclure de la lutte contre Boko Haram la question centrale de l'assèchement du lac Tchad, de la rareté des ressources, de l'existence chez certains peuples locaux d'une certaine culture de la prédation. On ne peut pas évacuer cela. Mais il est important que les actions civilo-militaire, parce que vous avez en face de vous un mouvement qui a beaucoup d'argent, qui a reçu de très gros financements de certaines monarchies du Golfe, et qui sont capables d'offrir une perspective à des populations à qui l'État ne donne pas tout, n'a pas toujours donné grand-chose. Je crois que et c'est dans ce sens qu'il est important qu'après que la sécurité soit revenue, ou tout au moins, pendant qu'on envisage la fin de la guerre, il est important que justement que les États proposent, donnent une alternative à ces populations des périphéries nationales qui ont longtemps eu l'impression d'être abandonnées.
Jean-Christophe Servant, on va le faire réagir. La balle est à nouveau finalement.
Bien sûr, Raoul, vous avez entièrement raison. C'est-à-dire effectivement le peu de cas dont a fait l'opinion internationale et en particulier les partenaires privilégiés ou les anciennes puissances coloniales effectivement de la région. De cette question-là, de cette problématique, en fait aujourd'hui de ce terrible drame que vivent les populations de cette région-là est assez atterrant. Il est clair, mais aussi en même temps, faut rappeler que au moment où, surtout à partir du canal historique de Boko Haram, mais à partir de l'intense répression qui a été menée Boko Haram et l'arrivée de Tchéko à la tête de Boko Haram après l'exécution extrajudiciaire de Mohamed Youssouf par l'armée nigériane en 2009, les regards étaient encore tournés en ce qui concerne le Nigeria, puisque c'était encore, même si effectivement des rebelles de Boko Haram étaient déjà présents en fait sur les zones frontalières, puisqu'on sait très bien, comme vous le savez Raoul, c'est une zone très très poreuse quoi. Nous avions encore, et nous-mêmes journalistes, nous avions encore le regard tourné vers ce qui se passait dans le delta du Niger. Le Nigeria était encore un pays en forte croissance, le pétrole était encore à un très très haut niveau, le brut, et nous vous interrogions surtout par rapport à ce qui se passait dans le delta du Niger. D'ailleurs, le delta du Niger, l'insurrection dans le delta du Niger est en train de remonter. Et c'est vrai qu'on s'est très très peu intéressé effectivement à cette question-là, malgré évidemment de très bons chercheurs qui commençaient effectivement à s'inquiéter de cette montée en puissance de Boko Haram, mais les anciennes puissances coloniales aujourd'hui effectivement sont assez responsables effectivement cette montée de la crise. De l'autre côté aussi, il ne faut jamais oublier effectivement que un phénomène assez classique, évidemment. Cette fameuse guerre, entre guillemets, contre le terrorisme et contre Boko Haram, permet de conforter, effectivement, des régimes, disons, qui vont de la démocrature à la dictature, mal élus, etc., et qui, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, effectivement, bafouent encore plus facilement, effectivement, les libertés individuelles et les droits.
Votre réponse, Raoul Soumo, rapidement.
Je pense qu'on ne peut pas combattre les terroristes en utilisant les moyens de la terreur. On ne peut pas combattre les terroristes en tombant justement dans leur piège, en ne respectant pas les droits de l'homme. Et je crois que malgré les accusations que l'on observe ici et là, ces dernières semaines, je crois que l'accent est mis sur le respect des droits de l'homme. Il y a eu des accusations, certaines avérées, certaines pas, mais je pense que d'une manière ou d'une autre, les États sont désormais conscients de ce que il ne faut pas tomber dans le piège des terroristes, combattre le terrorisme par la terreur.
Merci beaucoup, Raoul Soumo. On a compris donc que finalement, et cela imputé à la fois à la responsabilisation des États et à la mobilisation de la communauté internationale, cette lutte contre Boko Haram. Raoul Soumo, vous étiez en ligne depuis Yaoundé, la capitale camerounaise, consultant défense, spécialiste de Boko Haram, chercheur au Centre d'études stratégiques et des innovations de Yaoundé. Merci à vous, Jean-Christophe Servant. À mes côtés en studio, rédacteur en chef au magazine Géo et collaborateur au Monde Diplomatique. Merci à Claude Battista qui était à la réalisation, à Florence Ponce qui a mis en place cette émission. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans 30 secondes, le retour de l'info. En sol majeur.